Très bien, merci pour votre patience. Alors moi aussi j'ai appris certains mots ici. Alors là, maintenant je vais essayer de parler avec Jésus ici parce que je pense... Ah, ça c'est un drôle de bruit. Je vais continuer jusqu'à ce que ça soit réglé. Et l'idée c'est que vous, dans la cuisine maintenant, vous pouvez m'entendre. J'espère que c'est le cas. Bonjour à vous dans la cuisine, bon travail ce matin. Et courage avec ce Britannique qui parle avec un accent moitié belge, moitié québécois. J'ai appris de la part de certains d'entre vous. C'était sympa de me le dire. Je vais rentrer dans toute l'humilité pour travailler une fois de plus tout cela. Alors j'ai appris, figurez-vous, qu'on appelle un oreiller un coussin ici. Pour moi, ça a l'air d'être un peu bizarre. Et une serviette, un linge. Donc, à vous de travailler votre côté un peu original. Et dans tous les deux, on se retrouve au ciel pour parler la langue des anges. Et on a hâte d'y être, n'est-ce pas, ensemble. J'aimerais, avant de commencer... J'aimerais moi terminer, parce que peut-être c'est le dernier moment où je peux vous remercier pour votre accueil, très chaleureux, pour votre patience avec moi, votre persévérance aussi, avec un message. Je pense que le premier message, c'était 1 heure 8 minutes, et j'avais un peu honte de cela. Et donc, bravo à vous d'être encore aujourd'hui, ça m'encourage, ça c'est la grâce de Dieu qui est à l'œuvre. Donc, merci. À chacun, je n'ai jamais aussi bien mangé lors d'un week-end d'église de ma vie. Et j'étais aussi honnêtement très frappé par la bonne volonté collective d'aider à gauche et à droite pour différentes choses. Je pense, alors de nouveau, si mes amis belges maintenant écoutent ce message sur Internet, je vous aime aussi les Belges, mais je pense, ne vous inquiétez pas, que ce n'est pas grâce qu'on on chemine ensemble. Mais nous avons des choses à apprendre en tant qu'Église belge de vous. Les Suisses dans ce sens-là, le désir de travailler dans l'humilité de servir, d'être assidu dans la tâche. Il y a une chose qui me frustre en tant que pasteur. Moi, je peux dire des petites choses qui me frustrent en tant que pasteur. Je suis un peu accroché à l'idée que les chaises le dimanche matin doivent être bien mises. Et je suis semaine après semaine après semaine toujours un peu déçu de voir que malgré ma formation super poussée de comment mettre une chaise, pour moi, je ne pense pas que c'est super compliqué. Comment est-ce que vous devez placer une chaise? Ce n'est pas aussi difficile que cela d'apprendre qu'on met les chaises d'une manière à ce que ceux qui sont dans la rangée derrière peuvent toujours voir si possible ceux qui sont devant. Et j'arrive dimanche après dimanche après dimanche et j'ai envie de dire « Mais non, encore une fois, je dois aller ranger toutes les chaises. » Mais il me semble qu'en Suisse, vous faites ça très bien. Donc, chapeau, je vous admire. Merci, ça fait signe d'une église où chacun se met à travailler. Et ça serait l'une des choses que nous allons aborder aujourd'hui. Donc, merci Seigneur pour ça. Je suis encouragé par votre sérieux dans la foi, votre amour les uns pour les autres et votre amour pour le Seigneur et pour sa parole. Donc, continuons dans cette direction-là. J'aimerais commencer aujourd'hui avec une illustration qui vient de ce livre-ci. Donc, pour quelques minutes, je vais juste simplement lire l'introduction à ce livre-ci. Si vous ne connaissez pas ce livre, je vous le recommande. Si vous voulez savoir quels sont les bons axes pour une église locale, l'église a un bilan de santé de Marc Dever. Ça fait un certain temps maintenant que ce livre est sorti, une dizaine, une quinzaine d'années, je pense. Mais je trouve l'illustration tout au début assez parlante pour nous en tant que chrétiens ensemble dans une église locale. Et bien entendu, vous allez reconnaître, c'est une parabole moderne de quelques principes que nous trouvons dans 1 Corinthiens 12. Donc on y va. Vous êtes prêts? Donc c'est plus moi qui parle, c'est Marc Dever à travers cette illustration pour quelques minutes. Nez et mains assis à l'église, discutaient. Le culte du matin, dirigé par oreille et bouche, venais-tu juste de se terminer? Main expliquait à Ney que sa famille et lui avaient décidé de se mettre en quête d'une autre église. Vraiment, répondit Ney à cette nouvelle. Pourquoi donc? Oh, je ne sais pas, reprit Main en fixant le sol. Il avait l'habitude de parler moins vite que les autres membres du corps. J'ai l'impression que l'église ne correspond pas à ce que Madame Main et moi recherchons. Eh bien, qu'attendez-vous d'une église? Demanda Ney. Le ton de sa voix était bienveillant. Pourtant, en prononçant ces mots, il savait qu'il n'approuverait pas la réponse de Main. Si sa famille et lui étaient incapables de voir que Ney et les autres responsables conduisaient le corps dans la bonne direction, le corps n'avait pas besoin d'eux. Main réfléchit avant de répondre. Madame Main et lui aimaient le pasteur Bush et sa famille, et Oreille, qui dirigeait le ministère de louange, était plein de bonnes intentions. Je crois que nous cherchons un endroit où les gens nous ressembleraient davantage, redouilla finalement Main. Nous avons essayé d'apprendre à connaître les jambes, mais nous n'avons aucune affinité avec eux. Ensuite, nous nous sommes joints à la famille des orteils, mais ils ne parlent que de bas, de chaussures et d'odeurs. Ces choses ne nous intéressent pas. Cette fois, Ney le dévisagea avec une consternation évidente. N'êtes-vous pas heureux qu'il se soucie des odeurs? Oh, bien sûr, mais ce n'est pas de notre ressort. Ensuite, nous avons assisté à l'école de dimanche. Concernant tous les traits du visage, vous en souvenez-vous, nous y sommes allés pendant plusieurs dimanches il y a quelques mois. Ouais, oui, nous étions très contents que vous puissiez être des nôtres. Ouais, merci. Mais les gens ne voulaient que parler, écouter, sentir et goûter. Nous avions l'impression que, eh bien, que vous ne vouliez pas mettre la main à la pâte. De toute façon, Madame Main et moi pensions aller jeter un coup d'œil à cette nouvelle église dans l'est de la ville. Nous avons entendu dire que là-bas, les gens aiment beaucoup frapper des mains et lever vers le ciel, ce qui correspond mieux à ce dont nous avons besoin pour l'instant. Ah, répliqua Ney, je comprends ce que vous voulez dire. Nous ne voulons certainement pas que vous partiez, mais je suppose que vous devez faire ce qui est dans votre intérêt. Au même instant, Madame Main, qui était en grande conversation avec d'autres membres du corps, se retourna pour se joindre à la discussion entre Ney et son mari. Main lui résuma brièvement leur entretien et Ney répéta qu'il était triste à l'idée de perdre les mains. Mais il affirma qu'il comprenait la situation puisqu'il semblait bien qu'ici leurs besoins n'étaient pas comblés. Madame Main approuva en hochant la tête. Elle voulait rester polie, mais, à vrai dire, partir ne l'attristait pas. Les critiques à peine voilées que son mari avait formulées envers l'Église au cours des années avaient suffi pour que son propre cœur commence à les faire sienne. Il n'avait jamais été agressif, bien entendu, en parlant du corps. En fait, d'habitude, il s'excusait d'être aussi négatif, comme il le disait. Cependant, les petits blâmes qu'il laissait échapper ici et là avaient eu leur effet. Les petits groupes étaient un peu fermés et sélectifs. La musique était un peu démodée. Des activités un peu ridicules. L'enseignement, pas tout à fait à leur goût. Enfin, quand il leur était difficile de pointer le problème du doigt, mais ils avaient finalement décidé que cette église n'était pas pour eux. Du reste, Madame Main savait que leur fille, Rosie, ne se sentait pas à l'aise parmi les groupes de jeunes. Tous les autres étaient tellement différents d'elle qu'elle avait l'impression d'avoir les mains liées. Madame Main voulut ensuite préciser que malgré tout, elle appréciait beaucoup Ney. Elle est responsable, mais la conversation durait depuis déjà trop longtemps pour Ney. En outre, ce dernier avait envie d'éternuer à cause du parfum de Madame Main. Il la remercia pour ses encouragements, leur répéta qu'il était désolé d'apprendre leur départ, puis il tourna les talons et les quitta. qui avaient besoin des mains. Selon toute vraisemblance, eux n'avaient pas besoin de nez. Fin de lecture. Alors, j'espère que vous allez comprendre à travers cela le lien qu'il y a avec 1 Corinthiens chapitre 12 et les différentes parties du corps. Parce que cette illustration que nous venons d'entendre, c'est une illustration très parlante. Des deux côtés, mains et nez, ils ne cherchent pas à voir que les mains et nez sont différents, mais complémentaires. Que l'Église ne soit pas remplie de personnes qui nous ressemblent, mais de personnes différentes. Et oui, même si nous aimons cette diversité, et vous êtes comme notre Église à Bruxelles, une église très diverse, merci Seigneur pour cela, mais même si nous aimons cette diversité, nous le savons que cela représente des défis dans la vie d'Église. Des réels défis de culture, d'attente, de ce qu'il faut faire, de comment est-ce qu'on accueille, comment est-ce que nous sommes sérieux par rapport à la parole de Dieu, comment est-ce que nous évangélisons de manière appropriée pour notre société aujourd'hui, et ainsi de suite. Et au lieu de faire face aux défis, c'est très facile de maintenir l'idée que tout ira mieux si les autres penseraient toujours comme moi. C'est ça mon défi quand j'arrive et les chaises ne sont pas mises à mon goût, à moi. De penser si seulement cette église était remplie des Suisses. Cela, ce serait parfait. Ok? Mais nous devons comprendre que comme cela, je cherche une église qui me ressemble plutôt qu'une église qui ressemble à la diversité dans la sagesse de Dieu de rassembler un peuple tout à fait différent mais complémentaire. Combien c'est un danger cela, chers amis, dans nos relations les uns avec les autres. C'est de véhiculer l'idée que l'Église, pour finir, a plus besoin de moi, de mes dons à moi, que celui qui est assis à côté de moi. Et c'est sous cet angle-là, je pense que j'aimerais aborder ce qu'on appelle la communion fraternelle, mais sous l'angle des dons spirituels. Car dans le Nouveau Testament, les dons spirituels sont exercés dans le contexte d'un engagement régulier et sacrificiel au sein d'une église locale avec d'autres personnes différentes de moi. Non pas alors l'exercice des dons spirituels comme une quête personnelle pour trouver mon propre épanouissement dans la foi en trouvant, disons, le don qui me convient. Non. En me mettant plutôt à servir au sein du corps de Christ, conscient de mes responsabilités envers le corps. Et donc, c'est pour cette raison-là donc, que nous allons essayer d'aborder sur la troisième page des feuilles que vous avez reçues, cette question-ci. Donc, comment exercer nos dons spirituels de manière à ce que, je pense qu'il manque un « à ce », J'avais dit à Jonathan qu'il devait corriger mon français, mais il ne l'a pas vu. Donc, je te pardonne, Jonathan, pour ça, comme vous me pardonnez pour ici, cette erreur. Voilà, super. Comment exercer nos dons spirituels de manière à ce que la communion fraternelle soit mise en avant? Et nous allons donc voir plusieurs textes, mais surtout 1 Corinthiens 12, un petit peu, et Romains 12. Et donc, on va commencer avec Romains 12, même si nous avons donc déjà abordé Romains 12 hier. On va reprendre, si vous voulez bien, pour que cela entre un peu plus dans notre esprit maintenant. Donc, chapitre 12, verset 1 de l'Épître aux Romains. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Alors, rappelons-nous que la louange dont parle le Nouveau Testament est un engagement de toute une vie. Nos corps offerts à Dieu comme un sacrifice de remerciement. Et à partir du verset 3, Paul nous dira comment nous devons faire cela. Et au verset 6, il mentionne le fait que nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Nous louons Dieu, donc, à travers nos dons spirituels. À partir du verset 6, il mentionne un certain nombre de ces dons. Il y a d'autres listes, je vous laisse consulter ces listes à votre aise, dont 1 Corinthiens 12, à deux reprises, il mentionne différents dons, dont 1 Corinthiens 12, et aussi Éphésiens chapitre 4. Peut-être il mentionne dans un sens, il résume les dons spirituels aussi dans 1 Pierre chapitre 4, versets 8 à 11, je pense. Mais essentiellement, Romains 12, 1 Corinthiens 12 et Éphésiens 4, ça c'est la liste complète des dons d'après le Nouveau Testament. Donc, dans Romains 12, à partir du verset 6, il mentionne un certain nombre de ces différents dons. Il parle de la prophétie, il parle du service ou le ministère, il parle de l'enseignement, de l'exhortation, de donner, de présider ou diriger, de pratiquer la miséricorde. Et nous sommes, si nous avons donc suivi Romains 1 à Romains 12, versets 1 et 2, nous sommes exhortés à pratiquer nos dons par les compassions de Dieu. Et ça, ça nous mène à notre premier point sur la feuille pour nous aujourd'hui. Comment exercer nos dons de manière à ce que la communion fraternelle soit mise en avant? Donc, tout d'abord, peut-être certains de ces points vous ont... Ça va vous apparaître tout à fait évident. Merci Seigneur. C'est bien que ce soit un rappel pour chacun d'entre nous, pour que nous soyons clairs sur des choses qui sont claires. Donc, dans un sens, moi je lis tous ces points, je dis, bah, c'est clair. Donc on peut fermer, on peut aller faire autre chose. Non, Paul à plusieurs reprises doit répéter certaines choses importantes dans le Nouveau Testament parce que nous avons besoin d'entendre et réentendre ces choses. Donc je ne vous demande pas pardon si vous dites, bon, mais c'est évident ça. Oui, mais le fait de répéter ça nous aide à garder ce qui est essentiel au centre de notre vie d'église. Donc, première chose, l'Esprit de Dieu doit être en nous grâce aux compassions de Dieu envers nous en Christ. Ça, c'est la base pour commencer à servir au sein d'une église. Car certains pourraient dire... Peut-être c'est même le cas pour certains d'entre vous ici ce matin. Je sais servir, j'aime servir. Je suis suisse, donc je sais ce que c'est de débarrasser une table, de faire la vaisselle, de cuisiner. Ça, il n'y a pas de souci, je peux aider. Mais je suis moins sûr sur la foi. Ça, par contre, j'ai des doutes. Peut-être je ne le dirai pas ça à haute voix, mais peut-être dans mon cœur, je dis, bon, je ne suis pas pour autant certain que je partage cette foi. Mais j'aime les personnes ici présentes. Vous savez, dans l'église à Beaulieu, il y a juste 6 mois, quelqu'un a été amené par son frère pour une soirée d'évangélisation. C'était peut-être d'ailleurs l'atelier des coupes de viande. Alors, je peux venir faire ça pour vous si vous voulez l'année prochaine. Donc, vous me suggérez cela, ce serait avec joie. Et son frère est venu. Et ensuite, son frère a aimé la soirée. C'était chouette, on a bien mangé ensemble. On a appris comment découper plusieurs viandes. Et c'était très sympa. J'ai donné une explication sur la foi. Peut-être qu'il m'avait entendu dans un contexte convivial. C'était pas trop église. Et il dit, oh, écoute, pour finir, assister à une réunion chrétienne, c'est assez sympa. Donc, il est venu à l'église. Il nous a trouvé bon, assez sympa. Merci Seigneur pour cela. Et après 3 semaines, ben je ne sais pas comment c'est pour vous de devenir membre formellement dans votre église, mais chez nous, normalement, ça prend entre 6 mois et 1 an pour qu'on voit la personne son arrière-plan, on comprend que sa foi est bien établie en Christ, que c'est une personne qui sait servir de manière fidèle, etc. Mais après 3 semaines, cette personne me dit, parce qu'il avait entendu dans des annonces un dimanche, X est devenu membre de notre église, il dit, il m'a trouvé, après 3 semaines, il m'a dit, ben, j'aimerais bien devenir membre de votre église. J'ai dit, écoute, c'est super, super, merci Seigneur que tu apprécies l'église. Mais en fait, d'abord, il faut creuser toi-même la foi en Jésus-Christ. Okay? Donc, sans doute, c'est vrai que nous pouvons aimer des personnes, mais le point de départ pour être au service au sein de l'Église, c'est d'être membre de l'Église. Non, mais quand je dis maintenant membre de l'Église, ce n'est pas membre entre guillemets, c'est quelqu'un qui appartient à l'Église de Jésus-Christ. Parce que sans doute, nous avons tous des dons, soi-disant, naturels. Nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Nous avons des talents. Nous pouvons donc, dans un sens, servir avec ce talent naturel que nous avons. Mais pour que ces dons naturels soient spirituels, ils doivent, au préalable, être imprégnés par la grâce de Dieu. C'est par les compassions de Dieu que nous offrons nos corps comme un culte raisonnable, un sacrifice vivant. Ce n'est que celui qui dit, d'après 1 Corinthiens chapitre 12, les 3 premiers versets, « Jésus est le Seigneur qui est imprégné par l'Esprit de Dieu ». Nous ne pouvons pas donc exercer un don spirituel, c'est-à-dire qui vient de l'Esprit de Dieu, si l'Esprit de Dieu ne se trouve pas en nous. Et quel est l'un des tests clés d'entrée pour comprendre si quelqu'un a l'Esprit de Dieu? Ce n'est pas qu'il a dû passer par une deuxième expérience après sa conversion. Peut-être vous entendez, dans certains milieux chrétiens, on parle toujours de 2 expériences. D'abord la conversion et ensuite le baptême dans l'Esprit. Non, selon l'apôtre Paul, si nous proclamons avec notre bouche que Jésus est le Seigneur, il est notre Seigneur personnellement, alors cela signifie que l'Esprit de Dieu réside, demeure en nous. Ça, c'est la base pour pouvoir servir au sein d'une église, de comprendre que Jésus est le Seigneur, que Dieu me fait grâce à 100%, sans la moindre œuvre de ma part. Je suis justifié par la foi en Jésus-Christ et j'ai la paix avec Dieu. Il n'y a plus de condamnation en Christ Jésus. Est-ce que je crois cela? Je me rappelle d'une autre personne qui venait dans notre église pendant 6 mois, 1 an. C'était une autre connaissance qui l'avait suggéré de venir chez nous. Et puis j'ai constaté qu'après un certain moment, elle ne venait plus. Et j'ai demandé à ça. Je pense que c'est sa sœur qui lui a suggéré de venir chez nous. Sa sœur habitait dans une autre ville et je l'ai croisée à l'église, dans cette église-là à un autre moment. Et je lui ai dit, pour finir, qu'est-ce qui n'allait pas avec ta sœur? Pourquoi elle ne venait plus chez nous? Et sa sœur disait que c'est parce qu'elle ne se sentait pas digne d'être dans l'Église. Je veux venir, mais je ne suis pas digne. Et donc, le seul moyen par là, elle était coiffeuse de métier. Et la seule manière qu'elle se sentait capable de fréquenter l'Église, c'est si elle offrait de coiffer les gens de l'Église gratuitement. Parce que ainsi, cela l'a qualifié d'être suffisamment digne d'être parmi nous. Oh, quelle tristesse d'apprendre ça, n'est-ce pas? Quelle tristesse! Que le message de l'Église, c'est que nous sommes graciés à 100% par le Seigneur Jésus-Christ. Donc, ne pensez pas que oui, je vais pour finir justifier ma place dans cette assemblée parce que je peux offrir quelque chose. Que le Seigneur me considère digne de sa famille parce que, ultimement, je suis quelqu'un qui fait le nécessaire dans cette église. Je peux rentrer ce week-end et je dis, d'où vient ma confiance que je suis bien dans ma foi? Ben, j'ai pu faire X, Y et Z. Chapeau à moi. Évidemment, on ne dirait jamais chapeau à moi, mais on le pensera si nous sommes conditionnés de penser que j'appartiens parce que je suis digne de cette appartenance. Non, je ne suis pas digne de l'Église de Jésus-Christ, moi le premier. Paul, l'apôtre Paul, le savait. Il prêchait ça dans sa propre vie. Moi le premier, il a dit, Christ est mort pour sauver des pécheurs, dont je suis, moi le premier. Alors nous devons être capables d'aussi avoir ce retentissement dans notre cœur. Si je fais partie de l'Église, c'est parce que j'ai compris à 100% que Dieu m'a aimé en Christ. Et donc, du coup, j'appartiens au peuple de Dieu. Et j'aimerais juste vous encourager, si pour vous, dans votre cœur, ce matin, vous vous dites, mais écoute, c'est peut-être un peu moi, peut-être du côté que je ne me sens pas suffisamment digne d'être parmi ce peuple-ci, ou peut-être simplement, j'aime cette Église, mais j'ai des doutes sur la foi. Alors pour vous, chers amis, vous devez rentrer. La première chose à faire, c'est d'essayer d'être plus sûr vous-même sur le fondement de la foi chrétienne. De demander à quelqu'un de vous recommander un bon livre qui explique ce que c'est cette bonne nouvelle. De peut-être faire un parcours de la foi que l'Église peut mettre sur pied pour vous aider à être plus clair sur ce que c'est la foi. On commence dans l'Église de Jésus-Christ par la foi en Jésus-Christ. On ne commence pas dans l'Église de Jésus-Christ en étant un serviteur des autres. Nous servons parce que nous comprenons que Dieu en Christ nous a servi. Et peut-être juste à ce stade, dans du niveau, je cours le danger de prendre tout mon temps avec le premier point. Dans un même, donner quelqu'un, David, tu me dis s'il faut le deuxième point, ce serait super. Okay? Donc, pour ce premier point, j'aimerais juste dire un mot. Sur le danger, il me semble, c'est le cas en Belgique, je ne sais pas pour la Suisse, d'avoir plusieurs églises aujourd'hui qui préfèrent ne pas utiliser le mot « église », mais qui parlent plutôt de « communauté », « communauté », plutôt d'église. Je suis toujours un peu mal à l'aise avec cela. Comme si église, dans un sens que c'est un peu trop formel, qu'on préfère être un peu plus ouvert. Nous sommes une communauté très sympa. Vous pouvez découvrir ce que c'est l'amour dans cette communauté. Mais dès qu'on dit c'est l'église, c'est comme si, on doit le dire avec un accent un peu comme ça, comme si l'église c'est froid, c'est institutionnel, c'est dur. Ah, ça, c'est pas le cas. Mais, l'Église, bien sûr, c'est une communauté, mais c'est aussi défini par la foi en Jésus-Christ. Et donc, souvent, de nouveau, je parle pour la Belgique, mais on a quelques communautés qui parlent des mots-clés comme étant cheminée, découverte, etc. Communion. Appartenir, donc, de ce groupe, avant de croire dans la bonne nouvelle. De nouveau, évidemment, on ne veut pas avoir un rassemblement le dimanche matin. Nous essayons de chasser tous ceux qui disent pas « Ok, moi j'ai cru en Jésus-Christ ». Non, l'assemblée de dimanche matin, c'est un endroit pour des non-croyants d'entendre la bonne nouvelle, d'observer ce que les croyants croient. Mais ce n'est pas d'abord en appartenant à cette assemblée que les personnes sont d'office membres de l'Église de Jésus-Christ. Non, nous devons maintenir qu'il y a une distinction entre appartenance parce que c'est agréable et appartenance à l'Église de Jésus-Christ par la foi en Christ. Donc ça, c'est notre premier point. Allez, deuxième point ensemble. Pratiquons les dons spirituels dans le contexte de l'Église locale, dans le but d'édifier les autres. Alors ici, Romains 12, verset 4, « Car nous avons plusieurs membres dans un seul... » Attends, est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est 1 Corinthiens 12 ici à ce stade? Alors maintenant, dans mes notes, est-ce que je me trompe? Ah, super. Romains 12, 4. Tout à fait, merci. Donc, car nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Donc, ce n'est que dans l'église locale où je suis confronté par tout le corps de Christ. Ceux qui disent, je fais partie de l'église par la foi, mais je n'ai pas besoin d'une église locale en tant que telle. J'aime bien venir ici de temps en temps, j'aime bien aller ailleurs de temps en temps, j'aime bien parfois simplement voir quelques amis en semaine. Moi, je suis membre de l'église, mais je n'ai pas besoin d'être vraiment impliqué dans une église locale quelque part. À ce moment-là, j'aimerais vous dire, mais à ce moment-là, vous choisissez les membres du corps, nez, oreilles, bouche, etc., que vous appréciez. Ah, aujourd'hui, je vais choisir d'être avec ceux-là. Ah, ça fait un certain temps que je n'ai pas vu des gens de cette autre église locale. Je les apprécie aussi. J'ai eu assez pendant 6 semaines dans ce contexte-ci. Ça commence à me être un peu fatigant de devoir saluer toujours les mêmes, etc. Je vais ouvrir mon horizon. Ça a toujours l'air d'être super sympa, ouvert, n'est-ce pas? Mais en fait, c'est super égoïste. Super égoïste. Parce que cela signifie que vous ne voulez pas vous donner pour être confronté à ceux qui ne vous ressemblent pas. Et le test que je suis prêt à être ouvert à la diversité du corps de Christ, c'est que je reste engagé dans une église locale. Parce que c'est facile de dire cette église est sympa, n'est-ce pas, pendant un mois, pendant peut-être 2 mois. Moi, pour un week-end, c'est super sympa cette église. Merci Seigneur. Mais si on y est 1 an, 4 ans, 10 ans, alors là, on découvre la réalité de ce que c'est de devoir vivre avec d'autres. C'est vrai pour notre famille. N'est-ce pas? C'est ça ce qui distingue une famille des amis. Des amis, ils changent en fonction de notre goût, en fonction de nos préférences. Mais la famille, c'est notre famille. Mais merci Seigneur pour ça. Parce que cela nous pousse à grandir, à devoir faire face que je ne choisis pas les membres de ma famille. Mais pourquoi Dieu utilise la famille nucléaire comme symbole pour l'Église? Parce que ça représente bien ce qu'est l'Église. Nous sommes une famille, frères et sœurs en Christ. On ne peut pas choisir nos frères et sœurs. Donc la preuve que je les apprécie, c'est que malgré nos différences, on travaille ensemble. En dehors du corps, je peux simplement interagir avec d'autres croyants comme cela m'arrange, à mon goût à moi. Mais l'Église locale égale « je crois ce que vous croyez ». Alors, mettez-moi à l'œuvre pour qu'on se batte ensemble pour notre cause commune. Malgré nos différences, on y va, je m'engage. Vous êtes avec moi? Ça, c'est l'Église locale. On sert donc avec le corps de Christ local en vue. Verset 7 de 1 Corinthiens 12. Donc, on va maintenant changer de temps en temps entre 1 Corinthiens 12 et Romains. 1 Corinthiens 12, verset 7, nous dit « À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Donc, le but de mes dons, c'est d'édifier les autres. Ce n'est pas d'être épanoui moi-même. On tourne la page de 3 pages, 1 Corinthiens 14, verset 26. Qui parle à la fin de ce verset-là, par rapport à l'exercice des dons, que tout se fasse pour l'édification. L'édification. Donc, nous pratiquons les dons spirituels dans le contexte de l'Église locale, dans le but d'édifier les autres. Troisième point, faisons-le, c'est-à-dire l'exercice de nos dons spirituels, avec humilité, et dans un esprit de service. Il y a un peu chevauchement avec le deuxième point ici. Donc, nous devons pratiquer nos dons comme il s'agit d'un don, même si c'est un don dit naturel. Cela reste un don. Dans le corps, il n'y a pas de place pour l'orgueil, pour la pensée que certains ont plus de place dans cette église, car eux, ils apportent plus avec leur don à eux. Verset 3 de Romains 12, pardon mes amis, je veux changer les deux. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous, de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie pour chacun. Donc, une différente fonction dans le corps de Christ ne signifie pas moins d'importance. Non, dans l'Église de Jésus-Christ, nous sommes libérés de la jalousie, libérés de devoir dire « Ah, oh, X ici, oh, il a tellement d'ans que si seulement moi j'étais comme lui, et je l'envie un petit peu, je me réjouis de temps en temps quand quelque chose échoue chez lui, okay? Ou quand quelqu'un le critique de temps en temps. Ah, super. Même cette grande personne douée. Ah, moi, je suis un peu d'accord, n'est-ce pas? On doit le descendre un petit peu. Mais ça, c'est la jalousie. Je suis libéré de cette jalousie. Parce que Christ, il me donne ce que j'ai. Ça vient de lui. Ce que j'ai, c'est pas moins important, c'est pas plus important. Ça vient de lui. Donc, je suis aussi libéré de devoir faire comme un autre fait. Et c'est possible de se dire, ben, mon don à moi, ce n'est pas aussi utile. Si seulement je pouvais faire ce que lui, il fait, à ce moment-là, je me sentirais valorisé. À ce moment-là, j'aurais ma place au sein du corps de Christ. Non, je suis libéré de cela. Je peux remercier le Seigneur que lui, il fait quelque chose, qu'elle fait quelque chose, et que moi, je fais quelque chose de différent. Et je suis libéré aussi d'avoir peur que parce que quelqu'un est plus doué que moi, je n'ai pas de valeur. On peut aussi avoir un peu l'orgueil à l'inverse. Oh, je suis pas bon. Je suis bon pour rien. Moi, je me sens coupable. Je ne suis pas épanoui. Je vois que d'autres ont plus de valeur parce qu'ils ont d'autres dons. Non, mais ça, c'est l'orgueil à l'inverse. C'est de se dire que je cherche que les autres me disent « Non, ça va. Tu sais, tu es quand même super doué. Oh, c'est vrai. » Alors, je dis ça pour que l'autre me le dise. Mais d'où vient ma valeur? Que les autres me disent que tu es doué? Ou parce que Dieu m'a donné ce don? OK? Alors, le fait de connaître que nous avons tous des dons différents, des fonctions différentes dans le corps de Christ, ne signifie pas qu'il y a de plus important ou de moins important. Nous sommes libérés de tout cela. Et donc, l'important, c'est au lieu de se glorifier dans nos dons, je suis doué à ceci, vous savez, okay. C'est de mettre nos dons à l'œuvre. Et écoutez l'accent dans ces versets 6 à 8 de Romains 12. L'accent sur se mettre ces choses en pratique, verset 6, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de ça, de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Et que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Peu importe dans un sens que vous avez comme don, ça c'est pas l'important. L'important, c'est de mettre votre don au service des autres, Au lieu de penser que « Ouh, super, j'ai des dents, vous savez. Haha, maintenant j'ai ma valeur. » Non, bien sûr, nous avons tous nos dents. L'important, c'est de faire quelque chose avec nos dents. Je suis ami avec un cher frère bolivien. Bon, de nouveau, maintenant, peut-être on va supprimer ça, parce qu'il n'y a pas trop de Boliviens dans mon église. Donc, si lui, il écoute ceci sur Internet, je serai en difficulté. Donc, Daniel, où es-tu? On s'arrange après. Il était là, Daniel, il est parti. Ah, oh, là-bas, caché, derrière. OK. Donc, un cher frère de l'Amérique du Sud. Et il venait travailler chez moi, parce que j'ai voulu le connaître un peu plus. Et c'est un homme, comme beaucoup d'autres hommes, il n'aime pas trop parler, mais quand il fait quelque chose, alors il s'ouvre un peu plus. Donc j'ai fait exprès pour l'inviter à faire quelques petits travaux, parce qu'il est très doué pour les travaux. Et je l'ai invité à faire quelques petits travaux chez moi. C'était super. Évidemment, je n'ai pas fait ça pour moi, vous comprenez, j'ai fait ça rien que pour lui. Non. Comme quoi le cœur est compliqué, n'est-ce pas? Et parce qu'il était doué dans les petits travaux, on cherchait un responsable de bâtiment chez nous. Parce qu'on a des locaux, il faut les tenir à jour, etc. Il faut quelqu'un qui s'en occupe. Et je suis, parce que nous ne sommes pas Suisses, nous n'avons pas beaucoup qui sont volontaires pour ces choses-là. Mais cet homme, c'était vraiment la bonne personne pour cela. Et il était très régulier à l'église. Mais pour ce genre de poste, dans notre fonctionnement d'église, il faut que cette personne soit membre de l'église. Ça, on demande pour des responsabilités de ce genre, dans un sens, il est un peu diacre, qu'il soit membre de l'église. J'aimerais dire qu'aujourd'hui, il est membre. Donc, merci Seigneur pour cela. Mais je lui ai demandé, comme ça, lorsqu'il travaillait, je lui ai dit, donc, je vais l'appeler Paul, il ne s'appelle pas Paul, mais je lui ai dit, Paul, qu'est-ce que tu en penses de l'église? Tu es là maintenant chez nous depuis 3-4 ans, on te voit très, très fidèle, très sympa. Je lui ai dit, est-ce que tu as réfléchi, tu as pensé à devenir membre à un moment donné de notre assemblée? Il a dit, écoute Steve, j'aime l'église. Je trouve que c'est une bonne église. J'ai ma place au sein de l'église. Mais il dit, je ne préfère pas devenir membre, car j'aime servir lorsque cela m'arrange. Okay? J'aime servir lorsque cela m'arrange. Je lui ai taquiné tout de suite. Je lui ai dit, t'as compris ce que t'as dit, la Paul? T'as compris vraiment la portée de ce que tu viens de me dire? Je dis, je ne pense pas que c'est vrai, parce que là, ici, tu es en train de servir de manière assez régulière dans ces différentes tâches. Mais imaginons si moi, je disais ça. Okay? Moi, j'ai aussi le don ici d'enseignant, de pasteur. Imaginons si je te disais, moi aussi, j'aime servir lorsque cela m'arrange. Mais vous savez le nombre de fois où je me lève le dimanche matin et je n'ai pas trop envie de prêcher, après avoir peut-être disputé avec mes enfants ou mon épouse, même dans la voiture avant d'arriver à l'église, oh, il y a quelque chose qui ne va pas, dans mon cœur, les chaises ne sont pas mises, je suis fâché en arrivant à l'église, j'aime servir quand ça m'arrange. Ah, bah ok, plus de prédication pendant plusieurs semaines à l'église. Donc, non. Hein? Seigneur t'a donné un don, mets ce don au service des uns et des autres, de manière que les autres puissent compter sur vous. À un prix à vous-même, ça bien sûr. Alors, est-ce que ça veut dire que de temps en temps, je dois changer mon programme? Alors peut-être là, on touche sur des idoles plus suisses, je ne sais pas, mais avec les montres et le temps et tout ça, on est assez discipliné, n'est-ce pas? Mais l'Église implique parfois qu'on est dérangé. Je n'aurais pas choisi. Vous savez, ce n'est pas dans mon plan que le X m'appelle et me dit, bah, écoute, il y a un problème, est-ce que quelqu'un peut faire ceci ou cela? Non, je n'ai pas prévu ça. C'est peut-être dans 2 ans, je peux programmer ça. Et ça ne marche pas comme ça. Okay? Mettons nos dons au service de l'Église locale. Okay? Faisons-les avec humilité dans un esprit de service. Mais cela nous mène au constat suivant, donc le quatrième. J'ai jusqu'à quand, hein, Jonathan?
pour moi, là, tu peux lire.
Ah, magnifique. Ne vous inquiétez pas, on sera pas jusqu'à nous. Okay. Quatrième, que l'exercice de nos dons soit une expression d'un engagement plus large à aimer, servir les autres. Donc, dès que Paul termine le verset 8, Romains 12, il s'ouvre à une catégorie beaucoup plus large. Dans un sens, à partir du verset 9, il parle plus strictement parlant des dons. Verset 9, que l'amour soit sans hypocrisie. On a entendu ces versets hier aussi. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien par amour fraternel. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous. En espérance, soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. C'est-à-dire que l'exercice de nos dons se situe dans un contexte plus large. Mes dons ne l'enlèvent en rien ma responsabilité d'un engagement consacré plus large. Cela signifie que je ne peux pas cacher derrière mon don pour ne pas être à l'œuvre de manière générale au sein de l'Assemblée. Peux-tu contribuer financièrement à ce projet que nous lançons au sein de l'Église? Non, ça ce n'est pas mon don. Ok? Alors, bien sûr, oui, parce qu'en dehors de mon don spécifique à moi, mes dons, je contribue à aimer l'Assemblée. Alors, donner n'est pas décrit comme un don, mais une responsabilité pour tous. Alors maintenant, 1 Corinthiens 12, verset 28, parle du don de secourir ou d'assistance ou d'aider. Donc là, c'est décrit comme un don. Mais on revient dans Romains 12, verset 13, qui dit que nous devons pourvoyer aux besoins des saints. Donc ça c'est d'assistance ou d'aider. Donc, est-ce que c'est un don ou est-ce que ce n'est pas un don? C'est les deux. Il y a chevauchement entre le don et simplement l'amour. Car les différents dons ne sont rien qu'une expression d'un chrétien qui aime, qui sert les autres. Et donc, je pense pour cette raison-ci, ce n'est pas juste de limiter les dons à ceux qui sont mentionné explicitement dans le Nouveau Testament. Les listes, à mon sens, ne sont pas exhaustives. Et à ce sujet, peut-être on peut juste lire 1 Pierre 4, à partir du verset 8. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas ça sous les yeux. Mais 1 Pierre 4, 8 nous dit « Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péché. » Oh, j'aime beaucoup ce verset, n'est-ce pas? Si, on m'a une fois dit, Steve, si ton assemblée sait que tu les aimes, ils vont te pardonner toutes tes erreurs. Hein? Et donc, moi, je me dis, de quoi est-ce que vous parlez? Moi, je n'ai pas d'erreur. Moi, ça va aller super bien. Et puis, on avance et on voit que oui, on apporte aussi à l'Église mes propres faiblesses, mes propres façon de blesser, peut-être pas intentionnellement, mais néanmoins réel. Donc, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. C'est ça, super nécessaire au sein d'une église locale, chers amis. Exercez, verset 9, l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, dons de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Okay? Donc le don se situe dans ce contexte d'amour, et non pas don pour moi, épanouissement personnel, parce que j'ai trouvé mon don. Donc certains dons ne le sont pas strictement parlant, selon le Nouveau Testament. De s'occuper des poubelles, les chaises le dimanche matin, la projection, la musique, ce ne sont pas de dons, ce sont simplement des expressions de l'amour. Mais dans ce sens, il s'agit également des dons. Merci Seigneur pour cela. Et donc, moi j'aimerais juste dire ici un mot à ceux qui ont peut-être des dons plus publics que les autres voient. Donc, attention de ne pas trop vite catégoriser quelqu'un qui sert humblement comme étant très doué. Je pense qu'on peut avoir parfois un ton un peu condescendant. Quelqu'un fait la vaisselle, quelqu'un est en train de faire la cuisine en bas là maintenant, et on descend tous après, et on veut les encourager, et on dit, je t'admire pour ton don de cuisiner. Ou quelqu'un fait la vaisselle après ce midi, oh, merci Seigneur pour ton don. Okay? Et quand quelqu'un me dit ça, j'ai envie de répondre, et parfois je réponds en fait à haute voix comme ceci, c'est gentil, mais voici un essuie de vaisselle, et donne-moi un coup de main, comme ça tu peux exercer le même don. Ok? Au lieu de tergiviser avec la question « Quel est mon don ?», je pense que c'est juste que nous disons plutôt, pour qu'il y ait une vraie expression de la communion fraternelle entre nous, servir, servir. Mettez-vous à servir les uns les autres. Faites quelque chose dans cette assemblée. Un prix à vous-même pour le bien du corps de Christ. Et oui, si nous faisons cela, si c'est ça notre attitude envers les autres, oui, à un moment donné, nous verrons là où nous sommes plus forts dans un domaine qu'un autre. Non pas pour dire que vous ne devez plus rien faire, quoi que ce soit d'autre que ton don à toi, mais pour vous encourager, au moins si possible, à mettre un accent là où vous êtes plus fort. Ça, c'est sage, ça, c'est bien. Mais jamais est-ce que je peux réclamer parce que je suis fort là, alors maintenant, je ne vais pas aimer les uns les autres. Donc, que l'exercice de nos dons soit une expression d'un engagement plus large à aimer ou à servir les autres. Cinquième, soyons conscients à quel point cela pourrait être demandeur. Non, si c'est beau de parler des dons spirituels, oh, j'avais hâte de faire les dons spirituels parce que, ah, enfin, maintenant ça va aller pour moi dans cette église. Alors si c'est ça le danger dans notre cœur, alors qu'on se débarrasse de cela. Parce que servir au sein de l'église, c'est demandeur, c'est usant, ça implique de la souffrance. Alors quelle est la preuve de cela? 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. Peut-être que vous connaissez 1 Corinthiens chapitre 13 comme étant un texte qu'on cite au mariage. Moi, j'ai souvent prêché sur 1 Corinthiens 13. C'est un magnifique, une magnifique exhortation à aimer. Mais 1 Corinthiens chapitre 13 n'est pas écrit à des mariés. 1 Corinthiens chapitre 13 est écrit à une église locale. Alors, essayons de comprendre ce que c'est pour les Corinthiens d'aimer les uns les autres. Ici, on fait un petit bilan assez rapide. Donc, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé de chercher tous ces versets. Mais on sait qu'ils sont exhortés dans 1 Corinthiens 13 à pratiquer l'amour du ciel. Alors, mais de faire ça dans le contexte corinthien, c'est de aimer des frères comme ceci. 1 Corinthiens chapitre 1, versets 12 et 13. Il y a des factions dans cette église. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 8. Il y a des orgueilleux dans cette église. 1 Corinthiens 5, verset 2. Il y a des personnes immorales dans cette église. 1 Corinthiens chapitre 6, 1 à 8, il y a ceux qui se disputent dans cette église. 1 Corinthiens chapitre 11, versets 21 à 22, il y a du mépris pour les pauvres dans cette église. Et 1 Corinthiens, ça c'est le comble, étant donné tout cela, 1 Corinthiens chapitre 12 et 14, c'est une église qui se vante de la spiritualité. Il y a le désordre dans la réunion. avec ceux, chapitre 15, qui nient la résurrection des morts. Quelle église, mes amis! S'il y avait plusieurs églises à Genève à choisir, j'espère que vous n'aurez pas choisi l'église corinthienne, si ça se dit. Parce que c'est une église avec beaucoup de problèmes. Et moi, je lis en Corinthien, je me réjouis que le Seigneur ne nous a pas encore donné autant de problèmes dans notre église locale. Mais je suis frappé quand l'exhortation d'aimer les uns les autres se trouve dans ce contexte-là. C'est demandeur d'aimer les uns les autres, d'exercer nos dons spirituels. Alors, avec cela, en tête, on va juste lire les quelques versets de 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. Donc, nous ne pensons pas, en lisant ces versets, à notre conjoint, chers amis. Peut-être, application secondaire, hein? C'est bien de temps en temps d'y penser. Parce que cela nous fera du bien. Donc, c'est légitime dans ce sens-là de prêcher 1 Corinthiens 13, lors d'un mariage. Mais première application, c'est votre église locale. OK, vous êtes prêts? L'amour, 1 Corinthiens 13, verset 4. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Alors, si vous vous n'engagez pas à aimer ces personnes ici et d'autres qui fréquentent cette assemblée qui ne sont pas ici présents aujourd'hui, alors ne vous vantez pas de vos dons spirituels. Ne parlez même pas de vos dons spirituels. Parce que il nous montre, nous dit l'apôtre Paul à la fin du chapitre 12, deuxième partie du verset 31, « Je vais encore vous montrer la voie par excellence. » Vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur vos dons spirituels, mais si ce genre d'amour n'est pas en train d'être pratiqué entre nous, alors nos dons spirituels sont comment? Sont verset 1 du chapitre 13 comme une cymbale qui retentit. Ça fait du bruit, c'est brillant, et puis ça passe. Ça passe, ça passe. Nous voulons avoir un effet qui dure, un fruit à long terme. Au sein de notre assemblée, on s'engage à aimer. À aimer. J'aime beaucoup l'accent juste à la fin là, du verset 7, de l'espérance. Ça met cette couche de réalité de nouveau, que le meilleur est encore à venir. Qu'on ne donne pas une pression tellement haute d'achever le paradis dans notre vie d'église locale que nous sommes d'office déçus. Et juste en ayant le privilège ce week-end de parler avec plusieurs d'entre vous, je sais que peut-être pas dans cette église-ci, mais pour certains, oui, dans l'histoire de cette église-ci, mais aussi dans d'autres églises d'où nous venons, à quel point parfois nous avons dû souffrir. Mais dans un sens, je pense que les chrétiens, nous sommes équipés de manière plus naturelle pour faire face à la souffrance du monde, de l'opposition de la part du monde. On comprend que le monde ne partage pas nos valeurs à nous. Mais là où c'est plus difficile, si nous sommes honnêtes, c'est de faire face à l'opposition de nous-mêmes, de l'intérieur de l'Église. On a toujours un peu ce petit réflexe qui dit, mais ça ne va pas, on est chrétien, on est frères et sœurs en Christ, et on n'arrive pas à vivre cet amour réciproque les uns pour les autres. Et c'est une déception profonde qui peut faire de nous des cyniques par rapport à le vrai amour qui se trouve au sein de l'Église de Jésus-Christ. Mais ici, ces versets sont super importants pour nous aider avec cela. Parce qu'on comprend que oui, il va y avoir de temps en temps des difficultés, parfois des difficultés profondes au sein d'une Église. Et pourtant, nous ne sommes pas ceux qui rejettent donc la foi chrétienne. Nous pardonnons tout, nous croyons tout, nous espérons tout. Parce que nous savons qu'ultimement, nous allons vers ce paradis, cette nouvelle création. Il n'y aura plus de larmes, plus de morts, plus de difficultés. Merci Seigneur pour cela. Et pour cela, on a vu déjà, nous avons besoin des uns des autres pour pouvoir nous encourager jusqu'à ce que ce jour qui s'approche arrive. Donc, j'aimerais vous exhorter une nouvelle fois, chers amis, de ne pas reculer ces demandeurs. Ah, qu'est-ce que je fais? Alors, je tiens l'Église à distance. Mon grand-père, une fois dit ceci, lui fréquentait une église catholique. Il y avait un moment, on vivait à Londres ensemble. J'étais récemment converti par du catholicisme. Et je fréquentais mon église à moi, à Londres, et lui assistait à la messe chez lui. Hein, et on se retrouvait ensemble souvent le soir pour manger. Et il m'a demandé comment c'était l'église pour toi. Si, donc je lui ai dit que j'ai parlé avec X. Il y avait un message juste ici, et on discutait de cela après. Et moi, je lui ai demandé comment c'était l'église pour toi, grand-père. Je ne sais plus comment je l'ai appelé d'ailleurs. Papi, je ne sais plus. C'est pas grave. Grandpa, voilà, j'ai trouvé en anglais. Grandpa. Mais peut-être vous savez ça dans une nouvelle chose que vous avez apprise ce week-end. Bon, alors il m'a dit quoi? Il m'a dit, si, tu sais, c'était super, super ce matin. Je suis arrivé pile poil à l'heure et ça commence. Je ne parle à personne avant d'entrer dans le bâtiment. Ça commence. Le prêtre a maintenu l'heure. Et son sermon n'était que 5 minutes. À la fin, j'ai pu quitter sans parler à qui que ce soit. Nickel. Ça, c'est la différence. Okay? Parce que l'Église, pour lui, c'était une œuvre religieuse. C'était rien que verticale. Donc, je fais le nécessaire. Je participe au sacrement de l'Église. Je maintiens mon contact avec le Seigneur. Alors, pas besoin des autres. C'est quoi cette histoire? Parler avec les autres? Non! Hein? C'est moi. Alors, ça c'est totalement, c'est triste à dire, mais c'est totalement à l'opposé de la vision du Nouveau Testament de l'Église. Okay? Nous devons nous souiller avec les uns les autres. Et c'est demandeur. C'est coûteux. Mais faisons-le. Parce que Dieu a pris soin de nous. Dieu ne nous a pas demandé nous d'être à la hauteur. Il nous a fait grâce, alors faisons grâce les uns les autres. Alors, nous allons terminer, chers amis, avec ce dernier point. Nous gardons toujours une place particulière pour les dons qui instruisent les autres. Je pense que c'est important que même si nous disons que chacun a son don et qu'il n'y a pas celui qui est supérieur ou inférieur au sein de l'Église de Jésus-Christ. Néanmoins, le Nouveau Testament continue à mettre un accent sur la nécessité des dons qui instruisent, qui édifient les autres. Nous voyons ça dans 1 Corinthiens, tout à la fin du chapitre 12, où il dit « Inspirez aux dons les meilleurs. » Et dans un sens, c'est surprenant de voir ce petit verset-là. Il vient de dire, il n'y a pas de meilleur. Vous avez tous votre place dans le corps. Alors, en quel sens, alors, est-ce que nous devons nous aspirer aux dons les meilleurs? Parce que dans leur contexte d'église, où ils réclamaient ces dons impressionnants, parce qu'ils voulaient faire preuve de la puissance de Dieu, Paul les reproche en disant, non, ce que vous devez chercher surtout, c'est des dons qui mettent en évidence l'édification des autres. 1 Corinthiens 14, verset 1, recherchez l'amour, il l'a dit, pour résumer le chapitre 13, et puis inspirer aussi au don spirituel, mais surtout à la prophétie. Pourquoi? Il va développer au chapitre 14 que la prophétie, plutôt que de parler en langue, c'est un don qui édifie, qui met en avant l'instruction des uns et des autres. Nous devons donc chercher aussi les dons qui édifient au sein de l'Église. Ce qui est important dans l'Église, c'est que ce que nous disons soit compris, que ce soit dans notre langue. À nous, ça ne sert à rien, même si je parle la plus belle langue, l'anglais. Okay? Si je vous adresse ce week-end en anglais. Okay? Sauf si vous comprenez l'anglais. Hein? À ce moment-là, on est vraiment dans un club privilégié, n'est-ce pas? Non, c'est une blague dans la cuisine, vous me pardonnez. Merci. La chose importante, c'est la compréhension au sein de l'Église. Bon, ici, avant de terminer, j'aimerais juste dire un mot, parce que peut-être vous dites, mais Steve, tu n'as pas abordé la chose qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire que faire avec tous ces dons miraculeux dont parle 1 Corinthiens 12. Et je ne vais pas vraiment répondre à cette question-là, chers amis, parce que l'intérêt de l'apôtre Paul, en écrivant 12, 13, 14, ce n'est pas de nous faire plonger dans beaucoup de détails pour savoir, mais qu'est-ce que ce don-là? Est-ce que ce don-là est encore aujourd'hui à l'œuvre dans l'Église? Puis-je avoir le don de guérison et ainsi de suite? Même le don de la prophétie s'est débattu dans l'Église. Est-ce qu'il y a encore le don de la prophétie ou est-ce que la prophétie se lie au don donné aux apôtres au début de l'Église chrétienne qui proclamait donc le message apostolique pour que le canon du Nouveau Testament soit écrit. Et dans ce sens-là, plus de don de la prophétie. Je ne vais même pas dire où est-ce que moi je me situe là-dedans, mais ce que nous pouvons dire, c'est que l'importance de ces dons, si nous pensons que certains de ces dons miraculeux continuent à exister aujourd'hui, c'est de ne pas réclamer une supériorité, mais c'est de rechercher plutôt des dons qui mettent en avant les autres, qui édifient les autres. Et donc, si on tourne juste à la fin, à Éphésiens 4, on va voir juste la portée de ceci. Ces dons qui édifient, ces dons qui instruisent. Donc, désolé, mes amis, dernière concentration, on y est presque. Je vois certains visages qui disent, c'est pas possible qu'il va parler d'un autre passage. Mais rapidement, Éphésiens 4, verset 11. OK? Tout le monde a ça sous les yeux, Michel? Éphésiens 4, tu ne le connais pas, père? Non, elle est super pour moi. Tu m'encourages. C'est comme un geste d'amour envers ton frère. Tu persévères, tu supportes, tu espères, tu es patient. Merci. Éphésiens 4, verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, mais par la tromperie des hommes, par la ruse des moyens de séduction. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est ça ma prière pour vous, chers amis. Verset 15, qu'en professant la vérité dans l'amour, vous croîtrez à tous égards en celui qui est le chef, le Christ. Ça, c'est une exhortation collective. Ce n'est pas juste à vous en tant que des individus ici que vous allez croître à tous égards en celui qui est le chef, le Christ. Non, vous, en tant que corps de Christ, rassemblés dans une église locale. Alors la question se pose, comment est-ce que ça va avoir lieu? Croire à tous égards en celui qui est le Christ. Mais suivez la logique. Verset 11, il a donné des dons d'édification, d'enseignement. Verset 11. Pourquoi? Pour que verset 12, les saints soient formés, perfectionnés en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Alors, qui fait l'œuvre du ministère? Est-ce que c'est les docteurs, les apôtres, les évangélistes, les pasteurs? Verset 11. Ou est-ce que c'est les saints? Verset 12. C'est les saints. Les docteurs, etc., ils existent pour former les saints. Et si vous êtes en Christ, vous faites partie des saints. Donc, vous devez mettre en avant le ministère et l'édification du corps de Christ. Et ce qui est à remarquer ici, c'est que ce ministère, c'est essentiellement un ministère, non pas pratique, non pas de vaisselle, non pas dans la cuisine, etc. Mais ici, c'est un ministère de la parole de Dieu. Mais de la part de chacun d'entre vous. Non pas que vous devez devenir évangéliste, pasteur ou docteur, mais comment est-ce que, verset 14, nous ne serons plus des enfants emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes? Comment est-ce que cela va avoir lieu? Verset 15, parce que les saints vont dire la vérité dans l'amour. Ici, il ne s'agit pas de la vérité. Oh, écoute, Fiona, je dois te dire une chose, ça va être un peu difficile pour toi d'apprendre, mais j'ai vu comment tu étais avec Nathan hier, et franchement, je pense que tu as des choses à apprendre. Je ne dis pas que c'était le cas, bien entendu. Okay. Je n'ai rien à reprocher à Fiona. Souvent, quand on dit « je parle la vérité dans l'amour », c'est ça ce qu'on envisage, n'est-ce pas? Vérité avec V minuscule. Mais ici, dans le contexte d'Éphésiens 4, c'est vérité majuscule. La vérité de Dieu. Et nous parlons les uns les autres de cette vérité-là. Et cela permet que nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, le Christ. Alors, comment est-ce que nous pouvons être équipés pour cela? Si nous gardons la priorité de l'édification au sein de nos rassemblements et nos activités en tant qu'Église. Nous sommes donc à ceux qui doivent mettre en avant, non pas parce qu'ils sont supérieurs, hein, mais parce qu'ils visent l'édification. Donc, d'avoir des enseignants au sein de l'Église, des évangélistes, etc., c'est nécessaire. Non pas pour qu'eux, ils exercent tout le ministère. Moi, je viens le dimanche, eux, ils font le nécessaire. Non, eux, ils me forment, ils nous forment pour qu'ensemble, le dimanche matin, mais aussi en semaine, différents moments, quand j'écris un petit mot à quelqu'un, quand j'envoie un message WhatsApp, quand je me réunis en semaine en petit groupe, quand je vois quelqu'un un à un, à tout moment, je suis en train de nourrir la conversation avec l'évangile de Jésus-Christ, dans lequel j'ai grandi la vérité, et je veille les uns sur les autres, afin de exhorter, encourager les uns les autres à ne pas abandonner la foi chrétienne. Ainsi, dit verset 15, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, le Christ. Donc, persévérez, chers amis, soyez patients les uns les autres, mettons en avant l'édification et mettez au service de l'Église locale nos différents dons. Ainsi, je pense, chers amis, que la communion fraternelle serait réel et serait en train d'avoir un effet bénéfique. Et cela pour la gloire de Dieu. Merci, chers amis, pour votre écoute. Moi, je vais prier. N'hésitez pas à venir me trouver si vous avez des questions ou des choses qui étaient mal dites ou des choses qui doivent être clarifiées. Mais je pense que c'est un bon moment pour nous de nous arrêter. Michel, tu vas faire autre chose après?
Oui, terminé.
Ok, parfait. Donc, moi, je prie. Prions. Nous te louons, Seigneur, pour ta parole. Nous te louons pour ton Église. Nous te louons que nous sommes membres de ton Église par la foi, que nous ne sommes pas dignes de t'appartenir, mais parce que tu nous as aimés en Christ, tu nous as justifiés, tu nous as adoptés dans ta famille, nous puissions avoir cette espérance qui est devant nous. Mais nous puissions également avoir cette joie de connaître que nous appartenons à ta famille. Et nous te prions, Seigneur, que nous puissions avoir un regard tout à fait positif par rapport à ce que c'est de servir au sein d'une église locale. Non pas naïf, nous savons que c'est coûteux, nous savons que c'est demandeur d'être patients les uns les autres, de supporter, d'aimer, mais nous te demandons que nous puissions continuer à espérer. Nous te demandons, Seigneur, qu'il y ait des dons à l'œuvre au sein de cette église locale pour que ton peuple soit édifié. Et en tant que peuple édifié et formé, nous puissions dire la vérité dans l'amour et qu'ainsi nous puissions croire à tous égards en celui qui est le chef, le Christ. Que ton nom soit glorifié, nous te demandons, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.